Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Anissa Haddadi. Bonjour à tous, bienvenue pour Culture Média. Je suis ravie de vous retrouver, c'est un bonheur et on est en direct en ce 8 mai. Et on embrasse ce matin Thomas Hill qui a peut-être troqué le pull contre le t-shirt un peu trop vite. Attention, premier rayon de soleil. Après, on se retrouve au lit. Bim, coup de froid. Alors, on l'embrasse. Bon rétablissement, Thomas. Prends soin de toi. J'ai donc l'immense chance en ce 8 mai d'être bien accompagné, bien entouré de Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichenet. Bonjour.
Bonjour, bonjour Thomas.
Ils sont programmés.
On ne nous a pas donné le bon texte.
Attendez, on va la refaire, on n'est pas en direct. Vous pouvez la refaire en disant bonjour Anissa. C'est dans vos cordes.
On va essayer.
Mais on n'a pas répété.
Bonjour Jean-Luc Lemoyne, bonjour Julien Pichenet.
Bonjour Anissa.
Vous êtes parfait. On va parler de quoi Julien dans le journal des médias?
Ouh là là, on va revenir sur cette décision de justice qui concerne Coé. Il ne reviendra pas au micro d'énergie. On parlera également d'un doc sur Slimane. Vous savez qu'on est à 3 jours de l'Eurovision et on en apprendra un petit peu plus sur Slimane ce soir sur W9.
Et puis en ce 8 mai férié suivi du jeudi de l'Ascension, vous avez peut-être décidé de faire le pont ou de travailler depuis chez vous en visio. Et bien justement, on va en parler de la visio ce matin, la visio qui s'est invitée chez nous depuis le Covid avec notre invité média ce matin. Bonjour Alexandre Desinard.
Bonjour Anissa.
Merci à vous d'être là aussi en ce 8 mai. Et en présentiel.
En présentiel.
ça fait plaisir. Assez rare. Vous êtes l'auteur de la visio m'a tué. On va voir que la visio, c'était peut-être une fausse bonne idée avec votre livre où il y a de nombreux témoignages de Français. Dans la deuxième partie de l'émission, on sera avec l'écrivain Bernard Werber en tournée dans toute la France pour un voyage intérieur où l'on va essayer de découvrir, grâce à la méditation, les mystères de notre esprit. Ça vous ferait du bien, tiens, à tous les deux, Jean-Luc et Julien. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h30, 11h. Europe 1, Culture Média.
Anissa Haddadi. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevrons Alexandre Desinard qui vient nous parler des dangers du télétravail. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Bah, merci déjà. Hein? Non mais ça fait des semaines que je négocie pour faire la rubrique à distance et vous venez tout péter avec un bouquin. Je vous aime bien Alexandre, mais est-ce qu'on pourrait parler aussi de la pénibilité du travail? Est-ce que vous savez ce que c'est de retrouver les gens de Culture Média tous les matins? D'avoir Anissa Haddadi qui arrive en braillant dans la rédac à 9h parce qu'elle est debout depuis 3h du matin et que visiblement son casque était réglé trop fort dans la matinale. D'avoir Julien Pichenet qui vous explique que c'est dépassé le concept du petit déjeuner, ce qu'il faut lancer c'est le petit apéro. Thomas qui tombe malade comme par hasard un jour férié, alors que là il est en partance pour Cabourg. Est-ce que vous y pensez à ça? Bon, après vous avez des arguments pour défendre le présentiel.
Quand vous allez à un entretien d'embauche par exemple et que vous prenez les transports, vous engagez vers ce poste. Ça implique, alors que vous pouvez enchaîner les entretiens en visio comme sur Tinder.
Oui, 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 pour nous convaincre, Alexandre vient surtout de nous révéler que c'était un gros chacal sur Tinder. Comment ça, vous enchaînez les rendez-vous sur Tinder? Gardez un peu de mystère et changez de pseudo, Alex le concombre du 92. Ah non, c'est pas vous? Autant pour moi, je confonds avec quelqu'un de l'équipe qui appelle les candidats.
Ah, on a brassé Alexandre Omar qui nous écoute.
Ouais.
Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé... Ah, j'adore cette émission. Marié au premier regard.
Oui. Alors, petit rappel, la semaine dernière, Romain avait une future femme compatible à moult pourcents. Mais coup de théâtre, elle a rencontré quelqu'un et a annulé son rendez-vous avec Romain. Oh. Donc, il a fait une demande aux experts.
Ça m'embête de rester sur un échec. S'il y avait une possibilité qu'on me trouve une autre jeune femme compatible avec moi, ça me permettrait d'aller jusqu'au bout de l'expérience.
Je traduis. La première m'a planté, donc si vous en reste une en stock, je suis preneur parce que j'ai grave la dalle. Hein, même avec une compatibilité à 12%, même si c'est un sac de sport. Sérieusement, quand j'entends ça, moi je sais plus si je suis sur M6 ou sur la rubrique Auto du Bon Coin. Et c'est pour forcer le destin, alors qu'il n'a pas de prétendante, que Romain décide d'aller essayer son costume de mariée avec sa meilleure amie.
Et c'est avec Charlène, sa meilleure amie depuis 20 ans, qu'il va récupérer la tenue qu'il avait déjà choisie, mais qu'il n'enfilera peut-être jamais.
Oui, oui, on est d'accord. Dit comme ça, on se pose tous une question. Oui. Qu'est-ce qu'il enfilera peut-être jamais? Sa tenue ou sa meilleure amie? On se pose. On retrouve Alice et Florian à l'hôtel, et j'aime mieux vous dire qu'ils sont pas là pour repasser les draps.
Je pense que ce soir, on va être sur une belle intensification.
Voilà, on dit plus « chérie, j'ai envie de toi », mais « chérie, tu veux pas qu'on se fasse une belle intensification ?» Je suis d'accord, ça fait plus cours de physique que Jackie et Michel.
Ouais, c'est moche. Hein.
Bon, je vous fais pas de dessin, il y a eu papa dans maman.
Oh.
Et pour les deux, cette osmose pose question tant ils sont inondés de bonheur.
Je veux la découvrir, je veux la connaître au mieux. Pour moment-là pour valider ces 78%.
Mais on voit même plus que 78%. Enfin, pour le moment, je vois pas les 22%.
Si t'as pas minimum un diplôme de comptabilité, tu peux pas suivre cette émission. C'est pas marié au premier regard, c'est marié au premier bilan. Alors, avec tous ces chiffres, vous croyez que c'est idyllique ? Eh ben pas du tout. La voix off nous offre une bonne douche froide.
Mais Alice et Florian ne vont pas tarder à s'apercevoir que les 22% de non-compatibilité sont également à prendre en compte.
Vous avez bien entendu ? Vous êtes sûr ? On se retrouve 10 minutes plus tard.
Ils ne vont pas tarder à s'apercevoir que les 22% de non-compatibilité sont également un paramètre à prendre en compte.
Non, c'est pas possible. Oui.
Bonjour monsieur, vous voulez écrire pour M6 ? Quelle formation avez-vous ?
Bah, j'ai un BEP de copier-coller.
Parfait, vous pouvez signer votre
c'est
CDI. Pour qu'ils insistent autant, on se dit qu'il va se passer un truc de fou. Et ils n'ont pas menti. Qu'est-ce qui va venir tout foutre en l'air dans cette belle histoire ? Je vous propose de jouer tout de suite à « Qui veut gagner un divorce au premier regard ?» Alice et Florian viennent de passer une nuit délicieuse au lit. Leur entente est de 78%. Ils sont sur l'autoroute du bonheur avec un badge télépéage dans la poche. Quel événement va les emmener direct au bord de la rupture lors d'un dîner au restaurant ? Réponse A. Alice va se rendre compte que Florian fait les mêmes bruits quand il mange et quand il fait l'amour. À savoir, oh, oh, oui, c'est bon, c'est bon. Réponse B.
C'est gênant.
Florian va avouer à Alice que son fantasme à la base, c'est Elisabeth Borne.
Oui, c'est gênant aussi.
Réponse C.
Pourquoi pas ?
Maintenant qu'ils ont consommé, Florian va proposer de partager l'addition.
Oui, c'est gênant aussi.
Réponse D. Alice va malencontreusement casser une décoration en pâte à sel. Et manque de bol, Florian est pâte à sel au fil.
Alors, Alexandre, d'après vous,
quelle réponse ?
Trois.
La 3, c'est l'addition. Ouais. Et vous, Anissa ?
Moi, c'est les bruits. Les bruits à table, ça peut être gênant.
Oui, par élimination, je dirais aussi que c'est un problème d'addition.
Ouais.
On écoute la réponse.
Retrouvons Alice, à qui Florian vient de reprocher le fait d'avoir cassé en deux une pâte dans un bol de décoration.
Non.
Là, je dis non. Je dis non. On peut voir que c'est une expérience scientifique. Non. Les gens font crac-crac et après on te dit que tout s'arrête pour une histoire de pâte à sel. Je suis désolé, j'aime beaucoup l'émission, mais il n'y a que dans ce programme que tu peux entendre ce genre de phrase.
Cet incident de pâte cassée va-t-il avoir de graves conséquences sur la suite de leur histoire ? Ou bien les sentiments très forts qui les unissent les aideront-ils à surmonter cette situation ?
Faire du suspense sur de la pâte à sel ? Pardon, j'ai pas pu tenir, j'étais me coucher.
Waouh ! C'est une première dans l'histoire de Mario au premier regard. Ouais. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve demain, vous serez quand même là le jeudi de l'Ascension.
Moi je suis là tout le temps.
Ouais, vous êtes là tout le temps. Et ben nous on est contents. À demain sur Europe 1. Et d'ici là, on peut vous réécouter bien sûr sur Europe1.fr. Restez avec nous dans un instant, la suite de Culture Média avec notre invité ce matin, Alexandre Desinard. On va essayer de comprendre comment la visio a bouleversé nos habitudes au travail et leurs conséquences à la maison. À tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Anissa Haddadi.
Culture Média sur Europe 1 avec ce matin Alexandre Desinard en ce jour férié où théoriquement on ne travaille pas, ou en tout cas la majorité des Français ne travaillent pas. On se rend compte qu'en fait, grâce aux écrans, il y a beaucoup de gens qui bossent de chez eux. Beaucoup sont partis d'ailleurs ce matin sur les routes de France avec l'ordinateur dans la valise. Et c'est ce sur quoi vous avez enquêté dans votre livre là que je vous montre si vous nous suivez sur Europe1.fr, La Visio m'a tué, paru chez Alary Édition. Pour vous, Alexandre Desinard, la révolution du télétravail n'est pas si positif que ça. C'est ce qu'on se rend compte en lisant dans ce livre.
Voilà, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'être contre le télétravail, c'est un mode c'est un mode de fonctionnement installé, mais on a une vision un peu idyllique de ce mode à distanciel, parce que le télétravail, ce n'est pas d'ailleurs que chez soi, c'est aussi même au bureau. On voit des gens qui télétravaillent d'un étage à l'autre, et aussi en vacances, comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'on appelle ça même les traquants, c'est-à-dire qu'on on vient apporter avec soi l'ambiance du travail. Donc, je voulais montrer
les traquances, vous appelez ça.
Les traquances, voilà. Un mélange tracas-vacances. Ouais. C'est-à-dire que vous arrivez dans un lieu de vacances avec votre matériel et vous installez une atmosphère de travail en visio. Si vous louez un Airbnb, tout le monde vous entend et ça résonne et ça installe une atmosphère de travail.
Oui, puis on débranche jamais son cerveau.
Et on débranche pas. Ouais.
Pourtant, la révolution du télétravail, au départ, elle avait l'air quand même assez positive. Au départ, on s'est dit qu'on allait se libérer des transports, on allait se libérer des collègues bruyants comme Julien Pichenet, par exemple. Le télétravail, il permet aussi aux entreprises de réduire les coûts. Finalement, tout ça, ça n'a pas marché, là.
Alors, quand on était à distance, ça a commencé avec le Covid, donc on était content de maintenir un lien à distance. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on peut se retrouver, on a maintenu les distances. Et donc, c'était pour montrer ces témoignages. Voilà, c'est que je ne nie pas que on économise les temps de transport, que ça permet d'aménager son temps. Mais aussi, ça permet d'aménager son temps, qui fait que du coup, on se croise jamais. Donc, du coup, vous arrivez certains jours au bureau, les bureaux sont déserts. Ça provoque des désynchronisations. Ça provoque, comme on a évoqué, des effacements, des confusions entre la vie privée et la vie professionnelle. Quand vous travaillez de chez vous et que vous avez vous découvrez votre conjoint au travail.
Alors moi, j'ai adoré ce passage dans votre livre. C'est un passage génial où vous parlez effectivement de la frontière qui s'efface entre vie privée professionnelle et vie privée. Et effectivement, il nous est arrivé à tous, pendant le confinement, de découvrir son conjoint en réunion avec ses collègues. Et là, on s'est dit, ah, mais il n'est pas si sympa que ça, en fait. Voilà. Il est différent.
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut trouver... En tout cas, on découvre l'autre en train de travailler. Donc, avant, c'était quand même des choses qui étaient chacun de son côté,
ouais,
chacun au bureau.
Jardin secret,
et,
ouais.
Et voilà. Et même les enfants aussi découvrent leurs parents en train de travailler. Ça, c'est nouveau. Et puis, on découvre aussi les enfants des autres à visio interposé à travers les écrans. On entend aussi les enfants des autres. Donc, en fait, tout se mélange et c'est inédit.
Alors, ce qui est assez original dans votre livre, c'est la construction de ce livre, puisque ce sont des chapitres et chaque chapitre est consacré à un cas concret en entreprise. Ce sont toutes des histoires vraies que vous racontez dans ce livre ?
Toutes. C'est deux ans de recueil de témoignages, d'interrogations, d'extraits, de visio. J'ai aussi ramassé des pépites sur LinkedIn.
Comment vous les avez contactés, tous ces témoins ?
Alors, ça fait longtemps que je chronique le monde du travail, parce que j'ai écrit en 2008 « L'open space m'a tué ». Et aujourd'hui, avec cette révolution du travail distanciel, et voilà, j'ai convoqué tous les témoins que j'avais, interrogé les managers comme les collaborateurs, et aussi beaucoup montré tout ce qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, qui se passe aussi sur les chats entre collègues, sur WhatsApp, sur Slack, qui sont les outils collaboratifs.
Alors ça, c'est très intéressant, parce que le télétravail, quand on parle du télétravail, on s'imagine tous à la maison, sur le canapé ou dans un bureau à la maison, avec un ordinateur et de la visio. Ce qu'on oublie, c'est toutes ces plateformes, en fait, qui nous font travailler tout le temps. Vous parliez de WhatsApp, il y a aussi Skype dans votre livre, Zoom, Teams. En fait, toutes ces plateformes, elles nous polluent, parce que toute la journée, on veut être connecté, on se dit que si on est déconnecté, voilà, bah, c'est pas top, on passe pour un feignant.
Exactement. Et d'ailleurs, on me dit souvent, oui, mais j'entends beaucoup de gens qui me disent, en réagissant à ce livre, que la technologie, ça dépend ce qu'on en fait. Mais enfin, WhatsApp n'est pas obligé de communiquer aux gens que l'autre est en train d'écrire. Je sais pas si vous voyez. Ou Teams, que proposer une lumière verte quand on est actif.
Oui, un petit voyant, ouais, c'est
un
ça.
Un petit voyant et un petit voyant rouge quand on est en réunion et jaune quand on est inactif. Alors que ça se trouve, vous coupez Teams pour vous concentrer et vous coupez des notifications pour être un travail en profondeur. Mais en même temps, vous voulez être présent auprès de vos collègues à distance et vous intériorisez cette norme. C'est difficile aussi de prendre des pauses chez soi. Parce que quand on est au bureau, on va à la cafette avec les amis et les trucs chez soi. On étend le linge tout en écoutant.
On travaille plus à la maison, en fait, c'est ça que vous nous dites.
Et voilà, et on enchaîne.
Alexandre Desinard, là, pour l'instant, le tableau que vous nous dressez du télétravail, il n'est pas terrible. Il nous reste quelques secondes. Si vous aviez des conseils à nous donner pour survivre à ce télétravail, pour bien s'en sortir.
Alors, les conseils pour survivre,
essayez. Ah oui, d'accord. C'est pas bon signe.
Oui, bon, c'est déjà essayer de retrouver vos amis. Un petit groupe WhatsApp avec les collègues que vous aimez pour au moins quand vous allez, les jours où vous allez au bureau, ne pas vous retrouver dans un bureau désert. Et puis, chez vous, à la fin du livre, j'ai un petit manuel qui conseille comment activer sa caméra, essayer de bien vous présenter. Parce que quitte à être derrière l'écran, autant être bien.
Alors, dans les conseils que vous donnez pour suivre en visio, il y a contrôler son image, maîtriser le son, gérer les temps morts, adapter son body language, caméra ou pas, ça aussi, est-ce qu'on l'active ou est-ce qu'on l'active pas la caméra ? Parfois, on met un faux fond pour pas montrer le bazar dans le salon. Et puis, savoir raccrocher, et ça, c'est le plus important, effectivement, savoir raccrocher, même sur un long week-end du mois de mai.
Ouais. savoir raccrocher, ne pas trop mélanger, voilà, couper.
La visio m'a tué, la vie de bureau quand il n'y en a plus. C'est signé Alexandre Desinard, vous êtes notre invité ce matin sur Europe 1. Ne bougez pas, votre livre est disponible aux éditions Alary et beaucoup vont s'y retrouver dans votre livre. Restez avec nous Alexandre Desinard pour suivre l'actu des médias. Dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet. Et ce matin, on va parler notamment de l'animateur Coé qui ne reviendra pas sur l'antenne d'énergie. A tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Anissa Haddadi.
Culture Média avec Alexandre Desinard ce matin, auteur de La Visio m'a tué. Et à 9h50, Alexandre, c'est une tradition sur Europe 1, c'est le journal des médias de Julien Pichenet. Julien, on commence avec les audiences. Est-ce que Koh-Lanta s'en est bien sorti comme chaque mardi sur TF1?
Oui, mais Koh-Lanta n'a pas gagné hier soir. Ah. C'est France 2 qui est arrivé en tête des audiences avec une rediffusion pourtant. Une rediffusion de Disparition inquiétante qui a attiré 3 500 000 téléspectateurs avec Julie Gayet et François Berléand. Koh-Lanta arrive juste deuxième, juste derrière sur TF1 avec 14,5% du public et 3 100 000 téléspectateurs. Piège de cristal avec Bruce Willis sur M6 complète le podium avec 1 500 000 téléspectateurs. On aurait pu penser que ça allait encore un petit peu plus remplir la salle M6, mais il y avait le foot, il y avait le PSG,
oui, le PSG
bien sûr,
bien
sur
sûr.
Canal Plus Foot. On n'a pas encore les audiences, on est en train de faire les comptes. Anissa, on les aura vers 11h. Je sais déjà que vous avez regardé le match, que Jean-Luc Lemoyne a regardé le match.
Oui, déjà, ça fait au moins deux téléspectateurs. En attendant, je peux vous lire le message que vous m'avez envoyé hier soir. Il y a Piège de cristal sur M6, c'est culte occulte.
Ah, c'est
voilà,
culte occulte.
Donc
ça faisait du bien.
On sait sur quelle chaîne vous étiez, vous, hier soir.
Europe 1, le journal des médias.
À la une de ce journal des médias, Julien Pichenet, Coé qui ne reviendra pas au micro d'Énergie.
L'animateur Sébastien Coé, qui avait été écarté de l'antenne d'Énergie en novembre après des accusations de viol, avait demandé à revenir à l'antenne puis à être indemnisé, ce que prévoyait le contrat en cas de rupture. Il n'obtiendra finalement rien de tout ça. Le tribunal de commerce de Paris a débouté en effet Coé et son groupe de production qui a fait part de sa déception. Cette décision prouve qu'un contrat peut être mis en cause du simple fait d'une tempête médiatique, commente l'avocat de l'animateur. De son côté, la direction d'Énergie s'est félicitée de cette décision dans un communiqué visé par plusieurs plaintes. Coé a lui-même déposé des plaintes de son côté pour tentative d'extorsion de fonds, dénonciation calomnieuse et harcèlement.
Et puis Julien, les principales chaînes de télé cassent leur grille pour l'arrivée de la flamme olympique en France.
Oui, alors avis aux fidèles de Tout le monde veut prendre sa place ou des programmes habituels de France 2 en semaine, la journée sera quasiment entièrement dédié à l'arrivée du Belém à Marseille. En fait, à part les JT de 13h et de 20h, il y a un seul programme qui reste en place aujourd'hui. C'est ça commence aujourd'hui à 14h10. En face, TF1 se met aussi aux couleurs olympiques, avec toutefois une grosse pause en début d'après-midi pour Plus belle la vie, encore plus belle, qui sera suivie de deux téléfilms. Les rendez-vous de fin d'après-midi sont exceptionnellement annulés. Pour suivre la quotidienne de Secret Story, ce sera pas sur TF1, ce sera uniquement sur TFX à 19h05. On verra demain matin si l'arrivée de la flamme en France embrasera les audiences des chaînes qui ont décidé de suivre de près l'événement.
Et puis on embrasse notre collègue Jean-Pierre Foucault qui est en train de faire vivre l'arrivée de la flamme aussi à Marseille,
normal.
À la télévision, effectivement. Le Premier ministre Gabriel Attal accepte finalement, Julien, un débat de télé avec Jordan Bardella. Il aura lieu dans 15 jours.
Ouais, le Premier ministre, qui n'est pas tête de liste, refusait jusqu'ici de croiser le fer avec Jordan Bardella, qui lui est tête de liste du Rassemblement National aux Européennes. Mais il y a eu un changement de stratégie. La tête de liste de Renaissance, Valérie Ayé, est loin de Jordan Bardella dans les sondages. Elle est même talonnée de près par le candidat PS Place publique Raphaël Glucksmann. Conséquence, le chef de l'État Emmanuel Macron a demandé à son Premier ministre de venir à sa rescousse. Le débat Attal-Bardella aura lieu le 23 mai à partir de 20h15 sur France 2 et il sera animé par la journaliste Caroline Roux.
Et puis le lancement de la nouvelle plateforme de streaming Max se précise.
Ouais, on connaît sa date de lancement, ce sera le 11 juin. Je rappelle que Max, c'est la fusion de HBO Max et de Discovery+. C'est une plateforme qui est annoncée depuis plusieurs années, qui est très attendue par certains. C'est sur Max que sera proposée par exemple la saison 2 de House of the Dragon, inspirée de Game of Thrones. Il y a de nombreux films du catalogue Warner Bros. Qui seront également dans le catalogue, comme Harry Potter, Matrix, Dark Knight ou Joker. Il y a des productions françaises aussi qui ont été annoncées sur Max. Exemple avec cette mini-série inspirée de cette histoire vraie d'une femme qui s'était fait passer pour une victime des attentats du Bataclan. Ce sera avec Laure Calamy. Les abonnements iront de 5,99€ à 13,99€.
S'il vous plaît, prenez place.
Ah, ça y est, on y est. À moins de 3 semaines de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, hein, je le rappelle. France Télévisions, Julien, a donné des détails sur sa couverture du tournoi de tennis parisien.
Alors, quel échange, écoutez. Ce sera à partir du dimanche 26 mai. Il y aura près de 10 heures de direct chaque jour. La petite balle jaune sera sur France 4 en matinée, sur France 2 l'après-midi, sur France 3 en soirée. Pour ceux qui veulent choisir leur match, hein, ce sera possible comme ces dernières années sur la plateforme France.tv. Il y a une nouveauté cette année, les matchs du cours Simone Mathieu, c'est ce magnifique cours qui se trouve dans les serres d'Auteuil. Eh bien, ils seront de nouveau sur France Télé. Ces dernières années, c'est Amazon Prime qui en avait l'exclusivité. Ce ne sera plus le cas. Pas de changement dans l'équipe des commentateurs. On va retrouver Inès Lagdiri, Mathieu Lartaud, Fabien Lévesque ou encore du côté des consultants, Marie Pierce ou Michael Laudra. Sinon, Nelson Montfort assurera les interviews d'après-match pour la 37e et peut-être dernière année. Et oui, Anissa, Nelson Montfort ne sera plus salarié de France Télévisions à partir du 1er janvier 2025.
Okay. Alexandre Desinard, le télétravail pendant Roland-Garros, c'est dangereux, hein, souvent. Là, on est très peu connectés.
C'était difficile, même avant le télétravail.
Vous suivez, vous, un peu Roland-Garros?
Oui, bien sûr.
Ouais,
bien
vous
sûr.
Aimez ça. Vous ferez peut-être un peu Roland-Garros m'a tué, non? Ça sera peut-être le quatrième.
Pour les jeunes qui révisent les examens, si, c'est très dangereux.
On rappelle que vous êtes l'auteur aussi d'une série de Mathieu, il y a l'Open Space Mathieu, la Visio Mathieu, et le troisième
Le Visio Mathieu.
Le Visio Mathieu, l'Open Space.
Ah, il y avait Facebook Mathieu
et
en
Facebook
second,
Mathieu, voilà, oui. C'est ça. Allez, on poursuit ce journal des médias. Julien Pichenet, à 3 jours de l'Eurovision, W9 propose ce soir un documentaire inédit sur le chanteur qui représentera la France samedi soir en Suède.
Il a grandi dans les quartiers populaires. Ses copains se moquaient de lui parce qu'il préférait écouter Brel ou Aznavour plutôt que du rap. Aujourd'hui, il est l'un des artistes français qui vend le plus. Slimane le Conquérant revient ce soir sur le parcours de cet artiste qui n'a pas toujours eu un parcours facile. Hein. Il avait été foulé à tous les castings de comédie musicale, à tous les castings de télécrochet comme Popstar ou Nouvelle Star. Pour le producteur du documentaire, Milan Poyer, il y a dans le parcours de Slimane un joli message. Écoutez.
L'histoire de Slimane, c'est l'histoire d'un jeune qui croit en ses rêves. Et c'est un peu l'histoire du rêve français. On parle beaucoup du rêve américain. Bah, Slimane, je trouve que c'est un petit peu l'histoire du rêve français. C'est celui qui croit en ses chances et qui va tout donner pour y arriver et qui montre que c'est possible aussi. Alors c'est difficile, c'est pas évident. On le voit dans le documentaire, il y a beaucoup d'échecs. C'est un peu l'histoire de la résilience aussi, celle de la carrière de Slimane. Il faut rien lâcher. Quand on croit en ses rêves, il faut y aller, il faut aller au bout. L'histoire, elle peut être magnifique. Et c'est ce que montre Slimane dans sa carrière aujourd'hui et dans sa candidature à l'Eurovision.
Slimane le Conquérant, produit par Vigiproduction, c'est donc ce soir à 21h10 sur W9 pour se mettre à l'heure de l'Eurovision. L'Eurovision, ce sera samedi soir à 21h sur France 2. On sera tous derrière Slimane.
Bah,
on le rappelle à chaque fois, la dernière victoire française à l'Eurovision, c'était
Myriam.
En 1977. On n'était même pas né à Nice.
Et Malmö, parce que c'est les 50 ans de la victoire de la Suède avec ABBA.
ABBA, Waterloo.
Ouais. Malmö. Merci beaucoup Julien Pichenet pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter Média, inscription gratuite sur europe1.fr. Merci beaucoup Alexandre Desinard. Merci d'avoir été avec nous en studio ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la Visio Mathieu, la vie de bureau quand il n'y en a plus, paru chez Alary Édition. Et puis ne manquez pas ce rendez-vous cet après-midi historiquement vôtre avec Stéphane Bern, c'est de 15h à 16h. Et en cette journée historique du 8 mai 1945, hein, on célèbre l'armistice aujourd'hui, eh bien Stéphane Bern vous raconte la véritable histoire de Vichy, ville du régime. Culture Média continue après les infos de 10h. On sera avec Bernard Werber, non pas en livre, sur scène, en tournée dans toute la France avec son spectacle Voyage intérieur expérimental. A tout de suite sur Europe 1.